quoi qu'il en soit, dis-toi que le combat continuera jusqu'à ce qu'ils reconnaissent.
Et Hadji, la pièce maîtresse, mais laisse.
Progresse les mecs de Death qui jamais ne cessent de représenter, d'honorer leur patrie. J'crie, décris, or les choix si vitri, les jeunes du ghetto. Toujours d'assaut qu'on se resserre les dos, jamais ne baisse les bras.
Non, jamais.
Vous êtes sur Radio Galère pour la semaine spéciale des 40 ans de la radio. Mais on m'avait pas prévenu, ah bon? C'est toute la semaine sur Radio Galère à partir du 29 août. De 8h à 10h, l'information militante, écho des luttes, actualité, interview et reportage. FM et DAB+.
Et bonjour.
bon matin.
Bonjour. Il est 8h06, désolé du retard, et c'est la matinale spéciale.
Youpi. Eh bien, yes. Bienvenue. Moi, c'est Miette.
Bienvenue, moi, c'est Cousiana.
Et moi, c'est Sonotech, Sonotone, comme vous voulez. Pour les éboueurs et éboueuses qui nous écoutent dans leur camion, parce que j'en ai croisé plein en venant en studio, pour les chauffeurs et les chauffeuses qui sont déjà sur les routes, cette émission est aussi pour vous.
Et pour toi qui te réveilles tout doucement dans ton lit. On pense bien à toi.
Pendant la première demi-heure.
Et ben alors justement, qu'est-ce qu'on va parler pendant ces petites 2 heures ensemble? Alors du coup, sur la première demi-heure, on va faire une petite un petit tour actualité de ce qui s'est passé durant l'été, bien avant l'été. Donc on va parler notamment des prides, des marches radicales et autres perturbations qu'il y a pu avoir pendant ces marches officielles des fiertés.
Il n'y a pas de trigger warning.
Ensuite, je sais pas, est-ce
qu'il répond pas.
Bah juste là comme ça, non, je crois pas, pas qu'il y ait de trigger warning à mettre. Mais c'est bien de demander, c'est bien de poser la question.
Marche officielle.
Marche officielle, ouais. Du coup, c'est peut-être là, c'est peut-être ça même. Qui est trigger, ouais. Voilà. Oui, bon. C'est vrai. Oui, il y a peut-être. Bon, attention, on va parler des marches officielles. Voilà, on va dire plutôt que de dire, de nommer les choses. Ensuite, du coup, il y aura aussi dans cette première demi-heure un petit blabla. C'est ça sur le greenwashing des.
Oh non, ce sera un petit coup de gueule, ouais, sur une campagne de pub qui est actuellement sur tous les bus à Marseille.
Ok. Ensuite, la deuxième demi-heure, nous allons faire du bruit,
oui,
de la noise.
On va faire carnage.
Ok.
Et alors, ça vaut le coup qu'on vous fasse le visuel du studio. Cousiana a amené plein d'instruments. Donc, sur la table des invités, là, il y a vraiment plein de bordel. C'est un beau bordel.
Ouais, c'est un joyeux bordel.
C'est un joyeux bordel. Lui, il y a même des bougies dorées, quoi d'autre. Des bouquins. Des bouquins, d'ailleurs, a aussi un très joli bouquin à référence écologique. Peut-être ça se branchera bien.
Mmh.
Ouais,
trop
on
bien.
Va voir.
Ouais. Ah, ça va être chouette. Ouais. Et ensuite, clore ces infos, il y aura une émission parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre et qu'apparemment, le 1er septembre, il se passe des choses. C'est...
Ring.
Oh non, ça c'est trigger aussi.
non, attendez.
En rang.
C'est la rentrée des classes.
Tadam. Voilà, du coup, il y aura une émission sur la rentrée des classes.
Et oui, pour vous qui êtes en voiture pour arriver à l'école et vous avez la boule au ventre. Voilà, ouais. On pense à vous très fort.
Quelle horreur.
J'ai la boule au ventre pour vous, quoi.
Oui.
Ouais.
Oui
ou être trop content de retrouver vos amis, en fonction, ça dépend.
Youpi. Ok. Et ben du coup voilà pour la présentation un petit peu de ce qui va se passer sur ces deux heures. Qu'est-ce que c'est les prides, des marches, des fiertés, etc. Est-ce que vous avez une idée un petit peu d'où ça vient de... Ok.
Bah oui, ça vient de ce rôle.
Et ben alors, figurez-vous que en fait, c'était bien avant Stonewall. C'était en 66, en 1966. Ah oui. Il y a eu déjà les premières marches. Et en fait, 69, Stonewall, c'est venu un petit peu officialiser avec les émeutes qu'il y a eu contre les keufs, en fait, contre la police. C'est venu un petit peu officialiser qu'après tous les ans, il y a eu un anniversaire, enfin un rappel, voilà, qui est devenu après marche Mois des Fiertés, marche Pride, etc., etc. Okay. Et donc du coup, ben la première à Marseille, la première marche était en 1994. Voilà, ah, petit, ouais. Et donc ben pendant ces Pride, ben évidemment comme tout événement, comme tout mouvement, et ben il peut y avoir de la récupération politique.
Non.
Ouais, vraiment.
Mais bon.
Ouais.
Wow.
Et donc c'est devenu un petit peu les marches officielles avec évidemment et ben les par exemple l'année dernière nous avons pu voir à Marseille et eh ben en tête de cortège les trois candidats et candidates à l'élection municipale qui tenaient quand même la banderole de cortège, etc.
Et ça fait mal
avec voilà. Leur mari et leur femme. Comme ça,
voilà,
d'accord.
Des camions de CRS évidemment pour bien protéger tout bien ce sûr. Beau monde et voilà. Et donc quand on sait que en fait ça a été officialisé par en 69 où justement c'était des révoltes contre les keufs, contre le système oppressif, eh ben ça fait un peu mal comme tu dis quoi. Ouais. Voilà.
Bon, on va s'écouter une chanson.
Oui.
Comme ça vous réveillez aussi en musique.
En douceur. Merci. Merci.
Je t'aime encore.
Alors du coup, on vient d'écouter Niagara quand la ville dort. Et là, on va s'écouter un petit son, un communiqué qu'il y a eu après la Pride de Toulouse. Et à la fin de ce petit son communiqué, il y aura un morceau d'un groupe Résille. Et le morceau s'appelle Breaking Out.
Samedi 2 juillet, il y avait la Pride officielle de Toulouse. Avec son village d'assauts, d'entreprises et d'institutions, sécurisé par de nombreux vigiles, place du Capitole. On a voulu un peu perturber ce moment, notamment pour Pride Airbus, dont les membres se baladaient fièrement avec leurs ballons en forme d'avion sur la tête. On a fait un lancer de centaines de tracts au milieu de la foule, c'était beau. Et après, on a fait une visite au stand de la Pride Airbus entre Orange et la BNP. Leur avion gonflable a pris un coup de mou, les tables se sont retournées et les responsables du stand étaient toutes choquées. Alors, on vous lit le tract. Airbus, vendeur de mort, labellisé LGBTQI-friendly. Airbus est, cette année encore, le partenaire évident de la marche des fiertés toulousaines. Son logo sur l'affiche, son stand au village et personne à qui ça semble poser de problème. La propagande a bien fait son travail. Airbus serait la fierté de notre région. Le fleuron de l'industrie française qui emploie des milliers de personnes dans la métropole. Avec une politique d'entreprise pro-diversité en plus, logique qu'ils aient leur place à la Pride. Non, en tout cas pas pour nous. Airbus, c'est quoi ? C'est une de ces nombreuses entreprises toulousaines qui mélangent civils et militaires et font de cette industrie de la guerre un business bien juteux pour la région. C'est un arsenal d'avions de combat, de missiles, d'hélicoptères, qui arment des États du monde entier et bombardent les populations pour les intérêts de puissants, même cachés sous des prétextes humanitaires ou de paix, entre guillemets. Airbus, c'est des drones aux frontières de l'Europe forteresse pour empêcher les passages de celles et ceux qui n'ont pas les bons papiers. C'est aussi des avions civils pour expulser celles et ceux qui arrivent jusqu'ici. Airbus, c'est des satellites qui pourrissent ce qu'il nous reste encore de nuit étoilée, pour nous localiser, surveiller et nous permettre d'être connectés 24 heures sur 24 par écran interposé. C'est le développement de l'intelligence artificielle et la capitalisation sur la collecte de données, comme ils disent fièrement aux actionnaires. Airbus, c'est le pillage de ressources aux quatre coins du monde pour satisfaire l'idéologie morbide du progrès et de la technologie. C'est aussi des projets de voitures volantes autonomes pour les bourges. Airbus, c'est des avions et des fusées qui crament des millions de litres de kérosène et qui défoncent chaque jour un peu plus la planète pour que des privilégiés puissent s'envoler en quête d'exploration et de nouveaux marchés. Toujours plus vite, toujours plus loin. Airbus, c'est des dizaines de dirigeants et dirigeantes, des centaines d'actionnaires, des milliers de salariés et des milliards d'euros d'investissements qui servent à rendre ce monde toujours un peu plus invivable. Et sa manager, Marcella, récompensée par Macron en 2021 pour l'inclusivité des personnes LGBTQI dans l'entreprise, n'y changera rien. Pas plus que les passages piétons arc-en-ciel dans les locaux. Cette proclamée alliée, responsable à Airbus et présente au stand du village des Fiertés, assume que l'enjeu de l'inclusivité est avant tout un enjeu de thunes. Quand ils se sentent libres d'être qui ils sont, qu'ils ne gâchent pas leur énergie à essayer de cacher leur identité sexuelle, ils libèrent tout leur potentiel et sont plus performants, dit-elle. Malika, fondatrice de Pride à Airbus, est du même avis. Les chiffres sont très simples. Un salarié LGBT met 30% de son énergie à cacher qui il est. C'est 30% d'énergie gaspillée. Un salarié épanoui est un salarié productif. De notre côté, on souhaite surtout à ces salariés de s'épanouir ailleurs ou dans le sabotage. Stonewall, c'était des émeutes contre les flics et l'ordre dominant, pas un salon d'entreprise et d'institution. D'Airbus jusqu'au flag, assaut de keufs et matons LGBT, des homonationalistes jusqu'au maire de Toulouse Moudinque, qui passe de la tête de la Manif pour tous à la Pride 2021, des capitalistes aux politiciens, on emmerde celles et ceux qui pourrissent nos vies et récupèrent nos luttes. Nos désirs font désordre, et on compte bien le faire savoir. Clashons Airbus, crachons le pinkwashing et ses alliés. Et c'est signé des foutereuses de merde, ou du moins qui essayent de l'être. Et du coup, c'est possible de retrouver ce tract sur IATA le site d'information anti-autoritaire de Toulouse et alentour.
Et voilà, à cette Pride de Toulouse, j'y étais et ça me faisait envie de vous, vous lire un peu des extraits du communiqué d'annonce d'un cortège qui a été anticapitaliste dans cette Pride. Du coup, il y en a souvent. Maintenant, même à Paris, il y a deux marches. Il y a la marche radicale et la marche officielle. Et du coup, ça fait du bien, en fait, qu'il y ait ces cortèges. Voilà, dans les grandes villes, en tout cas, il y a toujours ça. Même dans les petites villes, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, cette année, la marche des fiertiers prend place dans le contexte de l'attaque historique contre le droit à l'IVG aux États-Unis, de la loi Don't Say Gay, qui interdit de parler des sujets LGBTQIA+ à l'école, et l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade qui vient de supprimer la protection du droit à l'avortement, laissant les États libres de se décider s'ils l'autorisent ou non. Il s'agit d'une offensive patriarcale d'ensemble contre les femmes et les personnes LGBTQIA+ du monde entier et de leur droit à disposer de leur corps. Du coup, cette banderole a été vraiment basée là sur ces enjeux aux États-Unis. En France, à l'issue d'une période électorale marquée par l'avancée de l'extrême droite, les réactionnaires s'inquiètent des avancées du mouvement féministe qui dénonce les décisions des institutions politiques, judiciaires et policières LGBT-phobes et remet en question les carcans du genre et des sexualités. Le mouvement et les entreprises profitent du mois des fiertés pour faire des campagnes de communication et se prétendent LGBTQIA+ friendly alors qu'ils suscitent ou tolèrent le climat LGBT-phobe et attaquent nos droits, poussant les personnes LGBTQI à plus à se censurer ou se cacher au travail, dans la rue, dans les institutions, dans les familles. Et alors que la pandémie a fait exploser la crise de l'hôpital public, le CHU subit de plein fouet les coupes budgétaires et la casse de la santé remet directement en question l'accès à des droits aussi fondamentaux que l'IVG, l'avortement, les traitements contre le VIH, les transitions médicales ou encore la PMA. Des États-Unis à la France, la situation montre une fois de plus que nous devons nous battre pour obtenir et maintenir des droits jamais acquis. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré du pain et des roses. Bah d'abord parce que leur drapeau violet et noir avec un point féministe, je les ai trouvés très beaux. Et aussi que j'ai aimé la référence à Bread and Roses, du pain et des roses. Et du coup, c'est une référence à des grèves ouvrières aux États-Unis qui avaient eu lieu, des ouvrières textiles. Et aussi, Bread and Roses, c'est une chanson et notamment qui est reprise dans la comédie Pride. Je sais pas si vous avez vu en tout cas moi c'est un film que j'avais vachement bien aimé et c'est un groupe d'entraide lesbienne and gay support the minors. Du coup ils créent un groupe LGBTQI à plus créer ils sont communistes et ils vont soutenir des mineurs en grève. Et du coup, toute l'intrigue du film, c'est ça, c'est comment une communauté queer en lutte se fait accepter par des travailleurs en lutte. Et voilà, et du coup, notamment, il y a cette chanson dans le film. Voilà. Et du coup, Du Pain et des Roses, c'est un collectif féministe international, lutte des classes, anticapitaliste, communiste et révolutionnaire, qui lutte contre toute forme d'oppression et d'exploitation. Et est présent aujourd'hui donc dans plusieurs pays d'Amérique et d'Europe. En tout cas, moi, je les ai rencontrés. Du coup, apparemment, elles faisaient déjà des luttes là, sur les derniers mouvements sociaux d'université, entre autres. Voilà, et moi, je les ai découverts à la Pride de Toulouse. Et j'aurais aimé faire des interviews en direct avec des personnes de ce collectif aujourd'hui, mais c'est pas possible. C'est pour ça que là, je faisais un détour et je parlais de ce groupe. Vous pouvez trouver leur communiqué sur le média qui s'appelle Révolution Permanente. Et elles ont aussi une page Facebook du Pain et des Roses. Voilà, des communistes, féministes et bien sûr qui se basent sur une logique anticapitaliste. Sinon, voilà, maintenant mon petit coup de gueule sur la campagne de pub à Marseille. Je pense que vous l'avez déjà aperçu là au cul des bus. Il y a cette campagne qui dit « Ma bonne mère, en septembre, mettez-vous au recyclage » avec un poisson dessiné, coloré, il y a un rond, il y a un petit palmier vert, voilà. Ça m'agace toujours de voir des commerciaux se faire du beurre avec la bonne conscience écolo-citoyenne. Donc je cite leur pub parce que nous l'aimons et que nous voulons la protéger. Donc la bonne mère, votre centre commercial Bonne Veine met à l'honneur notre bonne mère. Participez à nos ateliers recycling tous les mercredis et samedis. Animation enfants, parents gratuite, fun et ludique autour du recyclage. Voilà, j'aurais dû mettre une petite chanson derrière. Voilà, ça, c'est leur pub. Donc, je fais un petit retour en arrière. Les centres commerciaux sont le symbole de la société de consommation. Donc, ils s'installent sur des champs qui étaient avant cultivés pour bétoniser et détruire la biodiversité. Donc voilà, ça, c'est la base du centre commercial. Les grandes enseignes qui sont présentes là-dedans, sur le Bonne Veine, ce sont 60 boutiques et restaurants, mais c'est que des enseignes de multinationales hyper polluantes, en plus d'être dans des logiques d'exploitation humaine. Voilà. Et ils proposent des ateliers de recyclage pour attirer les consommateurs à consommer chez eux et se donner bonne conscience, mais à aucun moment c'est dans des logiques écologistes. Donc il y a une contradiction dans cette phrase. Tu ne peux pas, dans le même mouvement, encourager à consommer et proposer des alternatives à la consommation, ce qui est les principes de l'écologie. Voilà un bel exemple de greenwashing, de paraître écolo, concerné, cool, fun et ludique, mais surtout, pas faire du business. C'est monnaie courante, donc cette pratique chez les publicitaires de surfer sur l'écologie sans remettre rien en question. Pourtant, cette nouvelle campagne publicitaire m'a tellement tapé de l'œil que je ne pouvais pas m'empêcher ce matin d'en parler. Et voilà.
Merci de m'avoir parlé, donc. merci beaucoup.
Est-ce que t'avais envie de réagir, me semble-t-il?
Non, mais bon, c'était juste une question entre moi et vous et nous. Pourquoi on a lu tout leur communiqué? Ça fait mal. on a lu leur... Ça fait mal. Des petits matins quand même.
Oui, mais c'est, hein, pour moi, des fois, c'est important de le relire pour montrer leur absurdité. Mmh. Parce que quand tu sais, quand tu le lis en se disant « c'est un centre commercial qui fait ça », ça montre l'absurdité aussi du truc pour arriver. Parce que je trouve que ces trucs de greenwashing, ils sont partout. Et si on ne fait pas une analyse de ces publicités, on peut aussi les prendre et s'y habituer et les normaliser à fond. Ouais. Et je trouve que de faire de la critique aux médias comme ça, bah, ça permet de garder le sens critique un peu toujours éveillé.
Oui. Lorsque d'ailleurs, moi, je suis absolument sûre qu'après, ça va tomber dans une construction d'une nouvelle caste sociale. Ceux qui peuvent se permettre d'être chouettement recycleurs parce qu'ils ont leur carte... ou n'importe quelle chaîne de supermarché que je ne vais pas nommer à je ne sais pas combien de dizaines d'euros par ici et par là, et les autres, les losers, on a toujours mangé des bananes pourries à la poubelle, et ben on restera le loser et on sera toujours mal vu. C'est ça en fait, enfin, l'écologie, oui, c'est greenwashing, du coup ça fera c'est la mode, quoi. Non.
C'est la mode. Est-ce que du coup, on est un petit peu hors timing ou c'est comment?
Ou non, ça non, va... c'est bien. Oh, ouais, tu c'est veux bien. Commencer ton.
Mais il y avait juste un petit point agenda par rapport à la marche. Donc tout à l'heure, tu parlais qu'il n'y avait pas que les grandes villes et qui se mettaient à faire des marches radicales. Il y avait aussi les petites villes et les petits villages aussi. D'ailleurs, à Fort-Calquier, le 24 septembre prochain, il y a une marche qui est organisée. Du coup, je vais vous lire un petit peu le texte qu'ils ont écrit. Donc Fort-Calquier, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un petit village à 1h30 de Marseille.
Une petite ville, quoi.
Une petite ville? Ah ouais, c'est une petite ville?
Oui.
Ah ouais, ok, une petite ville. Bon, moi je... Bon, voilà. Petite ville.
Donc, petite ville, c'est un village, en fait.
Une vilounette. Alors, donc, nous, trans PD, bigouines, LGBTQIA+, et autres queeros des campagnes, voulons concilier nos identités avec nos aspirations à vivre, à travailler et à agir en milieu rural. Nous revendiquons notre droit d'exister et de nous épanouir comme nous sommes ou bon nous semble. Certaines d'entre nous sont en quête de lieux où rayonner d'extravagance et d'anormalité sans avoir à se poser 1000 questions. À commencer par « suis-je en sécurité ?» Nous fouillons les campagnes pour nous retrouver, nous regarder, nous soutenir et danser hors des villes que certaines ont quittées, si grandes et pourtant si étouffantes, foisonnantes mais étriquées. D'autres n'aiment pas se mettre en avant, se montrer et être regardés. Pourquoi ? Pour une grande partie d'entre nous, parce que nous avons été contraints et contraintes dans les campagnes où nous avons grandi à nous cacher aux autres et à nous-mêmes. Parce que trop souvent, nos réalités étaient dures à vivre, à assumer dans cette société tellement intolérante. L'égalité des identités et des sexualités prônées est censée être garantie par un cadre légal et si peu effective. L'hétéronormativité et la cisnormativité nous ont appris à nos dépens la nécessité de la discrétion, jusqu'à faire de nous parfois des êtres qui ne font pas de vagues. Nous avons besoin aujourd'hui, malgré l'effort que ça nous demande, de sentir nos carapaces se ramollir et nos boucliers se transformer. Pour nous et pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces mots, c'est à nous-mêmes de le faire la place à nos joies mais aussi à nos colères, celle de devoir lutter quotidiennement contre l'oppression et la violence de notre société, de tout un système. Nos marginalités n'ont malheureusement pas toujours la place d'exister. Il s'agit pour nous, le 24 septembre prochain, de laisser nos révoltes, nos revendications, nos bizarreries s'exprimer, d'interroger et déborder les normes par nos pluralités. Prendre place, donc, le 24 septembre en milieu rural, c'est d'autant plus important que nous y avons peu de lieux de sociabilité spécifiques et que l'anonymat y est paradoxalement impossible. Plusieurs d'entre nous ont grandi à la campagne, ont manqué de représentation pour voir, savoir qu'une diversité d'identités, de manières de se vivre et de relationner existe en dehors de l'écrasant modèle hétéro-cis patriarcal. Celles et ceux qui ont passé leur enfance en milieu rural ont eu l'impression que c'est en ville que ça se passe et de fait, nous sommes très nombreuses et nombreux à y être passés pour se rencontrer, nous-mêmes et notre communauté. Celles-là, comme ceux qui sont arrivés au fil de leur existence à la campagne, se demandent comment continuer de briller, rencontrer et baiser hors de la ville. Dans quels espaces endosser les paillettes, se sentir exister. Nous, trans-PD, bigouines, LGBTQIA+, et autres queeros des campagnes, sommes en colère. Combien d'années encore, combien de personnes, de générations d'enfants vont subir les violences morales et physiques, ces violences systémiques dues au ravage des mentalités hétérocentrées? Combien d'années encore à être discriminées, à n'avoir légalement que des petits bouts de droits? Nous prenons place ensemble, nous nous montrons, nous luttons, crions et continuerons de faire tant que la honte n'aura pas changé de camp, tant que l'une de nous ne sera pas regardée comme ce qui elle est, et pas comme c'est qu'elle n'est pas. Nous invitons nos proches, nos alliés, celles qui ne sont pas sûres, se questionnent, qu'on n'a pas encore rencontrés, qui habitent maintenant en ville ou encore en ville, dans les campagnes, proches ou lointaines, à venir défiler avec nous.
Et c'est quand ? Donc redis-nous.
Le 24 septembre à Fort-Calquier.
Super.
Voilà. Le programme, est-ce que j'ai accès au programme ?
Non, mais c'est pas...
On retrouvera
sur le net, non ?
Oui, je pense que c'est sur les réseaux. Ouais.
Génial. Et du coup, on va passer à notre moment de noise.
Oui.
C'est parti
pour le moment de noise.
On écoute une chanson ?
Oui.
Ah oui. Allez, on écoute une chanson. Désolé.
Yeah.
Il est 8h42, tout se prépare dans le studio pour de la noise.
Ben alors, salut. Attends, c'est quoi ça? Ouais, on entend quelque chose? Fais-moi sentir ça. Alors, je m'entends pas la table de mixage là. Ah ouais. Ah, yes, c'est vous ça. C'est toi? C'est pas ça. Bah, en fait, on vient d'écouter un morceau d'un vieux groupe, d'une dizaine d'années, qui s'appelle Pech Blenda, le groupe. Et la chanson s'appelle Cosmic Trigger. Donc, c'est du noise fait par des personnes plutôt transféministes. Disons, un sac féministe plutôt. c'est un peu la pointe des rencontres entre les transféminismes intersectionnels et ce qui est la réappropriation de la technologie depuis un point de vue féministe. Et j'avais envie de parler de noise parce que c'est une chose que moi ça m'a beaucoup plu dans la vie de rencontrer ça, de comprendre comment on est un peu plus comment dire profond et projeté par rapport à ce que ils nous ont dit normalement. Il y a quelques concepts par ici et par là que j'ai envie de citer en sachant que je ne suis pas du tout une très bonne pédagogue, mais j'ai une très bonne mémoire. Du coup, je me souviens des noms et prénoms et des concepts juste dits. Après, ne venez pas me dire de vous l'expliquer parce que ça va être trop difficile. Donc, alors là, j'ai un problème. Pourquoi ça... Alors, on a écouté Pech Blenda avec Pech Blenda, ce que j'ai appris, c'est qu'ils peuvent, on peut se faire des machines faites maison. On peut faire du noise. C'est quoi le noise? Noise, c'est du bruit, en fait. C'est du bruit. C'est quelque chose que, si on veut aussi, c'est quelque chose qui dérange un peu. Non? Voilà. C'est un peu un riot, non? On dirait presque. Ça fait du noise. Ça fait du noise. Est-ce que c'est du riot? Forcément. Tu arrives à te sonner, toi? Oui? Ah, trop bien. Magnifique. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, on va s'improviser une petite... On va vous fracasser les tympans pendant... c'est 8h43. Pendant au moins 10 minutes avec du bruit, mais avant. On va faire une petite introduction à ce qu'on va écouter. Je me suis totalement oublié de faire la citation que je voulais. Ah non, j'ai retourné arrière. Attends. Bah oui, normal, c'est du noise, écoute. Et ça rentre en feedback. C'est aller retour. Ouais. Alors, les concepts de noise, pour l'idée, la pratique du noise, en fait, c'est pas un concept, c'est l'idée qu'on peut avoir des machines qui peuvent être notre prothèse, notre prolongation, et avec laquelle on peut rentrer en contact autre. Entre nous-mêmes, on imagine que mon instrument musical est parti de moi. J'imagine que un câble électrique, il peut transporter ma conductance électrique à quelques autres endroits. Et on imagine qu'il y a un dispositif qui peut interpréter ces vibrations et les transformer en musique. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir à associer. Pardon. Avec le concept avec le texte de Donna Haraway à Cyborg Manifesto, dans laquelle elle laisse claire l'idée, en fait, que bah, l'idée aujourd'hui de parler des natures, c'est un peu limité. Genre, on peut pas penser à la nature comme simplement des arbres, des lacs et des ouragans. Les orages, mais tous les instruments aussi, tous les dispositifs et toutes les machines et toutes les choses que nous, bêtes de cette terre, on a construit, et bah, c'est fait encore partie de la nature, en fait. Donc, rien de mauvais. Et que cette façon d'être naturelle pour nous en construisant des affaires, ça peut nous renvoyer à une autre image de nous, une autre perspective, une autre projection. Et ça, c'est quelque chose qui parle la magnifique Lynn Margulis, qui est une biologiste féministe des États-Unis, si je ne me trompe pas. Mais je ne vais pas dire peut-être une bêtise. Peut-être elle est sûrement anglophone, mais bon. Elle parle de proprioception. Du fait que le corps, ça ne se termine pas dans une simple définition. La définition en soi est limitée. Du coup, la perception de soi-même, elle est très variable, très tangente. Voilà, par exemple, comment tu te perçois là?
C'est la prolongation de mes boobs.
T'as des boobs très ukulélé, toi?
J'ai des boobs très ukulélé.
Pas mal, franchement, chouette. À quand les contrebasses? Dis donc, pour les prochaines évolutions. Bah,
commencer par petit, c'est pas mal.
Ah oui, bien sûr, c'est clair. Non, jamais. Après, pour une espèce par petit, maintenant. On commence à le grand. Donc, j'ai presque l'impression de mélanger du coup cette Lynn Margulis et Donna Haraway avec une Lynn Haraway Margulis Donna Cyber Manifesto en disant ma machine et mon tentacule. Voilà. Et on vous fait écouter une petite intro d'un festival qui a été faite par deux êtres, même c'est pas deux personnes, c'est deux êtres splendides, rayonnantes et buissantes. Qui viennent de Berlin à la base, qui s'appelle Dell-8, si je ne me trompe pas, F64.0. Et là, le titre, c'est. J'arrive pas à voir ça. Leur motto, disons, leur lemme de lutte, c'est Anti-Génitalistic Riot. Et donc. Là, c'est le titre qu'on va commencer à écouter, qui va après nous introduire à un autre petit bordel. Oups, j'ai dit un gros mot. Désolé. on va commencer à faire un peu notre petit jeu en ligne. Du coup, on va écouter Intro for Suck My Lips Show.
64-0. An anti-genitalistic female and wild project to bring the apocalypse to all penis means man, vagina means woman orders. Fighting and finishing all vagina means female, penis means man, people and their propaganda. To reclaim the planet and delete all diagnoses to pathologize people against their will.
Wir bringen die Eigenmacht zurück. Delle 64.0 bringen die Eigenmacht zurück. Und bekämpfen die Sexisten und die kapitalistischen Schweine.
We tell you to steal, not to work for them. We tell you not to repeat their biologistic propaganda, nor their reproductive fairy tales, nor their stereotypical anatomistic lies.
You are an individual. Stay resistant.
Become a part of the wild and consumerable anti-genitalistic ritual. Help us to fight their world order, full of uniforms, cameras, hipster glasses, exploitation, sexual exploitation, cultural appropriation, history of the exploitators, language of oppression.
We are not here to say, thank you for gender change, lies and fairy tales. We are here to say, fuck you for gender incongruence diagnosis. We are here to say, fuck you to deutsches Transsexuellengesetz. We are here to say, burn. To Deutscher Bundestag. We are here to say fuck off and die to Deutsche Polizei. We are here to say game over, we kill you, to the genitalistic world order.
696 pre-orgasmic death spells to all gender entries.
696 pre-orgasmic death spells to all gender assignments.
696 death spells to support the anti-genitalistic war against the existing world order.
6969 death spells to support anti-genitalistic war against the existing world order.
Par l'observation régulière de son jardin, le jardinier pourra constater la présence d'insectes ou des maladies indésirables. Si le seuil de tolérance laissé à l'appréciation du jardinier est raisonnable, en fonction de ses disponibilités et de ses besoins et des passés, il envisagera alors de traiter. Le produit adapté sera choisi en fonction du constat effectué. Vous voyez comment ça sonne, quelque chose qu'on connaît. Pour tous ceux et ceux qui sont là, qui nous font chier, à peu près. Ceux et celles pour lesquels on se trouve obligé à devoir partir en manif, à faire des riots et à devoir se visibiliser. Il y a quelque chose qui... Ah ben voilà. Pour toutes ces personnes-là, qui on peut clairement, tranquillement appeler des parasites, comment ça peut être un parasite musical, quelque chose qui se passe. Voilà. J'ai continué à lui dédier ce test. Une bonne rotation des cultures est une pratique culturelle régulière, crée un environnement favorable avant... un bon développement sanitaire des végétaux. Il y a de l'espoir. Ils sont les premiers actes de la prévention. En règle générale, une culture peut supporter sans inconvénient majeur un certain taux d'infestation qui sera souvent possible d'éliminer en détruisant la partie atteinte. Par contre, au-delà d'une certaine densité, des populations d'organismes nuisibles, la culture risque de subir des préjudices importants, supérieurs au coût de l'intervention. Ce deuil doit être établi pour chaque culture, en fonction de l'ennemi concerné. L'excellent ouvrage de Magali, blablabla. Il faut qu'on apprenne à reconnaître les principaux parasites de notre jardin et à lutter contre leur prolifération. On se souvient, nous, qu'un environnement en bonne santé, sain et nettoyé, questionnable, plutôt plein de biota et de chouetterie, contribuera à donner un espace en bonne santé, ce qui limitera l'emploi des traitements. Bien reconnaître le ravageur permet une utilisation raisonnée des produits qui soient chimiques ou biologiques.
Chimico-biologiques. Riot.
Yes. Ces produits, dans des conditions normales d'utilisation et dans le respect des l'environnement ne devrait altérer ni la santé de la féministe ni la biodiversité. Eco-riot, bio-eco-pookie-riot, potager, éliminte parasite, éliminte virus. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui a fonctionné. Il y a quelque chose qui a fonctionné?
Oui, on entend des bruits, le temps file. Oui. Tout n'a pas fonctionné en permanence parce okay. que c'est des histoires de
branchement
de câbles de votre côté, voilà. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'on a eu un bel aperçu de...
Tu m'as fait totalement responsable, ça. C'est de tranquille, c'est de ma faute, ça.
Non, mais c'est
la noise.
C'est la noise. Bah oui, écoute, il y avait une copine, une très chère copine qui disait essayez, c'est pour les lâches. Et sur ça.
Ok. Et alors, on va enchaîner sur la rentrée après la noise de voiture ou d'appartement. Et là, il est 8h58 et ce sont des millions d'écoliers et d'écolières qui, à cette heure précise, s'assoient ou viennent de s'asseoir dans leur salle de classe pour écouter les premiers mots de leur instit, de leur maîtresse, de leur prof principal. Ça va de 3 à plus de 18 ans. C'est la rentrée à l'école qui signifie entrer dans une nouvelle classe.
Bon courage.
Voilà. Et aussi, retrouver avec les amis. Hein. Mais on va diffuser maintenant une émission, 57 minutes, qui a été produite à Brest par deux camarades pour l'occasion. Et qu'elles nous ont demandé de diffuser le jour de la rentrée. Et qui vient d'énoncer les mécaniques de l'école. Je l'ai écouté, je ne suis pas forcément d'accord avec tout. On peut questionner les choses, notamment car l'école peut aussi pallier aux violences vécues dans les sphères familiales. Mais en tout cas, la critique de l'école comme système d'exploitation est trop peu présente dans les médias et dans nos vies. Et ça vaut le coup de diffuser une émission qui est très critique. Voilà.
Merci.
Et voilà, c'est les joies du direct. Je vous diffusais pas le bon son puisque on était resté dans la noise et pas à la rentrée des classes. Donc on en profite pour vous dire ciao.
Salut.
La matinale en tout cas sur Galère, elle est terminée.
À bientôt, des gros bisous.
Mais voilà, l'émission pour la rentrée.
Soyez pas sages, mais soyez prudents.
Et c'est toujours ça, on est toujours en retard pour la rentrée. Alors voilà, ciao.
L'école, être collé, poser une colle, décoller, recoller, décaler, la rentrée des classes, classer, reclasser,
la classe,
la crasse, la rentrée des classes, la lutte des classes.
Écoute un peu.
Non, mon garçon, non, tu ne peux pas continuer à grandir ainsi sans recevoir une réelle instruction.
On pourrait faire ce qu'on veut, on pourra même casser les murs, on pourra même la transformer en ruine.
Tous les jours, dans cette putain de cour, c'est toujours les mêmes têtes, ouais, que je vois aux alentours. Des petits blancs friqués et bibos du monde qui se la pètent, pendant que mes potes basanés sont cantonnés au lèvres.
Même s'il y a des profs qui s'acharnent pour faire leur métier comme dans leurs rêves, des animatrices et des animateurs qui essayent tous les jours d'allumer des feux, du personnel d'entretien qui prend le temps d'écouter, de retrouver des doudous, des gens qui soignent les bobos et les maux du cœur. Même s'il y a des rencontres précieuses, des livres à disposition, des flamboyances, des luttes acharnées du collectif, des découvertes, des fenêtres, du partage de savoir et des frites à la cantine. Il y a aussi et surtout des élèves malheureux, des brimades, de la reproduction de violences systémiques, des dominations légitimées, des filières créées pour fabriquer de la main-d'œuvre, de l'autoritarisme cruel, des soumissions douloureuses, des obstacles au mouvement, à la lutte. Bref, suffisamment de raisons pour proposer aujourd'hui une émission qui brave les discours, nombreux, qui en appellent à défendre ce grand théâtre de la reproduction sociale et sociétale, cette mascarade méritocratique républicaine qu'on appelle l'école. Une heure de musique, de poèmes, d'articles, de témoignages et de briques dans la cour de récré, qui vous invite plutôt à y mettre le feu qu'à enfiler votre cartable.
Qu'est-ce que ces hurlements ?
Bandits, voyous, voleurs, schnappeurs.
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y soumis.
Dans les temps anciens, le monde entier allait à l'école. Les cailloux, les plantes et tous les animaux allaient à l'école. Les plus vieux apprenaient aux plus jeunes comment se défendre et bien manger. Les plus jeunes apprenaient aux plus vieux à garder l'esprit ouvert et alerte. Un baobab pouvait donner un cours de botanique à un jeune léopard. Un caillou pouvait enseigner la méditation à des petits moineaux. Le vent apprenait la danse à de jeunes flocons de neige. Et le feu enseignait la magie. On pouvait prendre des cours de self-défense avec un maître cactus, des leçons de chant avec un rossignol, ou découvrir la géographie avec un pingouin. Chacune et chacun choisissait quand, où, comment et avec qui apprendre. Et tout le monde aimait l'école. C'était la grande école de la vie. D'ailleurs, ça ne s'appelait même pas l'école, ça s'appelait la vie. Et on ne disait pas apprendre, on disait respirer. Puis un animal fier de lui-même, appelé Homo sapiens, tomba d'un arbre et déclara un jour « Ça y est, je sais tout, et je sais mieux que tout le monde. » Et il se nomma lui-même grand maître d'école. Il découpa toute sa science en petits morceaux et se mit à faire la leçon en distribuant de ses petits morceaux de savoir à qui voulait l'entendre. Or, il se trouva que personne ne voulait l'entendre. Il essaya de donner des leçons de morale aux cailloux, mais les cailloux n'entendaient rien à ce discours. Il se mit à donner des cours d'économie aux oiseaux, mais les oiseaux voltigeaient à droite, à gauche, en n'ayant rien à faire des lois du marché. Puis il essaya d'inculquer des notions d'éducation civique aux arbres, mais les arbres faisaient la sourde oreille. Un jour, il voulut apprendre la politesse au feu, et il se brûla les doigts. Après quoi, il faillit se noyer en tentant d'initier un fleuve à la discipline. Ses cours d'arithmétique aux étoiles furent un vrai fiasco, et le vent n'a jamais suivi aucune de ses leçons de géopolitique. Dès lors, l'Homo sapiens décida de se couper du monde et d'enseigner n'importe quoi à ses enfants. Mais ses enfants préféraient aller prendre des cours à l'école de la vie. Alors, il fit construire une prison pour enfants interdite aux animaux, aux plantes et aux cailloux, interdite au vent et aux étoiles. Il arrive parfois qu'une de ces prisons soit ravagée par un incendie. Et pour toutes celles et tous ceux qui aiment apprendre, c'est une bonne révision des enseignements du feu.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques kiri écrasé, l'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bons becs et des chocorèves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak. Qu'il veut s'échapper, voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle l'ait pas oublié. Dans la cour, c'est crade, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré, ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
Je m'étais barrée. En haut de la colline, je m'étais assise par terre et je l'avais regardée brûler. Les fenêtres dégorgeaient une fumée noire. Le ciel était plein de flammes et d'étincelles. J'entendais déjà les sirènes. Les flics, les pompiers, toute une foule de gens regardaient crouler la baraque. Je m'étais assise par terre et je l'avais regardée brûler. En fumant mes Lutti Strike avec un large sourire, je m'étais bien éclatée. Je suppose que j'étais une mauvaise graine depuis le début. C'est en regardant crouler cette sale école que j'avais pour la première fois compris combien j'avais de haine en moi et comme c'était bon de la laisser s'exprimer.
Bon, s'il n'y avait école qu'un seul jour par an, à la rigueur ça irait. On se dirait, bon, d'accord, c'est le jour de l'école. Et on ferait un effort. Mais c'est tous les jours, le jour de l'école. C'est tous les jours que le réveil hurle.
On peut pas rester au lit ce matin.
Sauf le dimanche. Le dimanche, on a le droit de rester au lit autant qu'on veut. Et c'est pour ça que le dimanche, c'est le jour qu'on préfère. Bah c'est vrai qu'il y a les récré. Normalement, pendant les récré, on peut s'amuser. Enfin, presque. Parce que pendant les récré, par exemple, on peut pas courir comme des dingues dans la forêt. Parce qu'on n'est même pas dans la forêt. On est dans une cour fermée, souvent recouverte de béton, et on n'a pas le droit de sortir, ni de courir comme des dingues. Et puis il y a aussi des surveillants ou des surveillantes qui vérifient qu'on s'échappe pas. Parfois, il y a un arbre et un bac à sable. Ça veut dire qu'on a de la chance. Parce que des fois, il n'y a rien du tout, à part quatre poteaux. Pour dire que si on veut, bah on peut jouer au foot. Enfin, malgré tout ça, c'est quand même la récré le meilleur moment de l'école. on serait peut-être d'accord pour y aller tous les jours, si c'était tout le temps la récré. Mais non, l'école, c'est pas tout le temps la récré. La récré, c'est seulement de temps à autre, entre deux sonneries de cloche.
On peut pas jouer toute la vie, on peut pas jouer toute la vie, on peut pas jouer toute la vie, retourner en classe maintenant. On peut pas jouer toute la vie.
Et alors en classe, c'est incroyable. On peut pas imaginer ce que c'est si on n'est jamais allé. C'est dingue tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une classe. On n'a même pas le droit de rêver ou d'être ailleurs. En fait, on a juste le droit de rester assis derrière une table et de copier dans un cahier ce que le maître ou la maîtresse écrit sur un grand tableau noir. On est obligé de répondre quand on nous pose une question. On est obligé de comprendre ce qu'on nous dit. Ou alors, il faut l'apprendre par cœur. Sinon, on a une mauvaise note. Et ça, c'est le début de très gros problèmes. On est obligé d'avoir de bonnes notes et sans tricher. Parce que si on triche, alors là, les problèmes sont encore plus gros. Et tous ces problèmes peuvent devenir encore 1000 fois plus gros si on décide de courir tout nu dans la forêt au lieu d'aller dans cet enfer où on n'a droit à rien et on nous oblige au pire. On pourrait penser qu'après un tel calvaire qui dure une journée entière, on aurait le droit de se reposer. Mais non. Il y a les devoirs, tous les soirs, pour pas oublier que le cauchemar recommence le lendemain. Comme ça, on est toujours obligé de faire autre chose que ce qu'on a envie de faire. Et on en vient à trouver ça normal. Je sais que ça paraît incroyable, mais tout ça, ça existe en vrai. Et si vous me demandez pourquoi on empêche les enfants de profiter de la vie, et pourquoi c'est justement à l'âge où on veut découvrir le monde qu'on nous enferme, et que tout le reste de notre vie, on devrait travailler pour peut-être profiter de nos derniers jours, alors qu'on sera trop vieux pour se rappeler ce que ça veut dire profiter de la vie. Bah, si vous me posez une question pareille, j'avoue que je saurais pas quoi répondre.
Dictée. Dis oui au maître, virgule. Il est le maître, virgule. Tu es sur terre, pas de virgule. Pour te soumettre ou pour te taire. Allez, reprenons.
Dis oui au maître.
Le maître t'a déjà dit de mettre sur lit l'accent circonflexe.
Il est le maître.
Et l'M est cette fois majuscule, important, souviens-t'en virgule.
Tu es sur terre.
Deux E et deux R.
Pour te soumettre.
À qui? Au maître, pardi.
Ou pour te taire.
Tais-toi, fais gaffe à tes doigts. Et point final, mon pote, fais gaffe à ta note.
Dis oui
La généralisation de l'école commence au début du 19e, avec les lois Guizot de 1833 et Fallou de 1850. Durant cette période, les intérêts de la bourgeoisie étaient de former la main-d'œuvre qui bossera plus tard dans leurs usines. La fin du 18e et le début du 19e fut une période de lutte intense entre la bourgeoisie et le prolétariat nouvellement formé, avec notamment la tentative révolutionnaire de la Commune de Paris. Même si le processus était déjà engagé, les révoltes populaires rendirent plus pressante la nécessité pour la bourgeoisie de renforcer son contrôle sur le prolétariat par l'école. La preuve, par les mots de Jules Ferry, idole de l'école républicaine. Ouvrez les guillemets. Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. Si cet état des choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles ne se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes totalement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste. empruntée à des temps plus récents. Par exemple, à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871. Fermez les guillemets. Discours de Jules Ferry au Conseil Général des Vosges en 1879. Par ailleurs, suite à la déculottée militaire de 1870, la bourgeoisie française prépare la guerre de 14-18. Pour ce faire, les bourgeois développent le sentiment national et républicain du peuple qui sera amené à se battre, notamment par l'utilisation du français au détriment des langues régionales. De même, l'idée de revanche pour récupérer l'Alsace et la Lorraine devait être insufflée dans l'esprit des prolétaires et des paysans. Et à qui a-t-on confié la tâche ? À l'école, bien sûr.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Le Crancre, poème de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tous les chiffres et les mots, les dates, et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodigés avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
On apprenait à faire des lettres. C'était une lettre A. Une lettre facile. Avec les pyramides là, la pyramide là. Ça, c'était facile. Et après, on apprenait la lettre A avec travailler, quoi. Je ne sais pas comment ça peut travailler, quoi. Et là, je m'applique. Hein, et j'étais fier. Je regardais au tableau pour voir si je n'étais pas, si c'était bien sur mon endroit. Et d'un coup, j'ai senti un coup sur les doigts. Ça m'a explosé le crayon et je ne comprenais pas ce qui arrivait, quoi. Et cette maîtresse, elle était à côté, elle gueulait avec sa règle. Elle me menaçait comme ça. Je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait. Qu'est-ce que je fais? Je ramasse un morceau de crayon dans le doigt, hein. Et je me remets à écrire. De nouveau, je reçois un coup sur les doigts, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce truc? J'étais gaucher. Bon, du coup... Mais du coup, on n'aime pas l'école. C'est un temps passé à jamais gravé d'enfants délaissés. Dans leur main petite, le livre sonnait de la loi stricte. Putain, là, il faut que je souffle. Dans leur main petite, le livre ne tenait. Dans leur tête triste, nuls le sont restés. Violence contre violence. Moi, on m'a demandé de faire un truc, je n'écrivais plus. Je n'entendais plus. Je voulais plus savoir. Ça a été en rapport de force tout le temps à l'école. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On formate les enfants dans une lignée comme ça. Et on les met dans des cadres, dans des cages. On ferme les lapins, les poules, les enfants dans des cages. Et on ne veut pas qu'ils dépassent de là. On veut que ça aille droit. Hein? Ce n'est pas l'échafaud. Mais condamnés, nous sommes à rester. Puisqu'en somme, des adultes, nous sommes dépendants de leurs mots.
Paraître évident pour certains, mais c'est toujours bon de le rappeler. L'école reproduit les classes sociales. En effet, quand on y entre enfant d'ouvrier, il y a peu de chances d'intégrer les grandes écoles qui fabriquent nos dirigeants. Oh, sûr qu'il y en a toujours qui passent au travers. Mais si on regarde des statistiques, on se rend vite compte que les chances sont très minces. Pour masquer la reproduction de classe, les profs, et malheureusement les parents souvent, ressortent toujours la même rengaine. Si tu te casses le cul à l'école, tu t'en sortiras. Ce qui suppose que nous sommes tous égaux à l'entrée de l'école et que c'est pour des raisons individuelles, personnalité, aptitude, ténacité, qu'on s'en sort bien ou pas. L'école se veut l'institution citoyenne par excellence, celle qui crée les bons citoyens républicains de demain. L'école nous fait oublier qu'il y a le prolétariat et la bourgeoisie, en nous faisant croire que nous sommes tous des citoyens. Cette confusion ne sert que la bourgeoisie. Les partis de gauche, voire d'extrême gauche, prétendent que l'éducation nationale est au service du peuple, et que ce sont les gouvernements de droite qui la pervertissent. En défendant cette institution, ces partis soutiennent directement les intérêts de la bourgeoisie. En effet, voir l'école juste comme le lieu de transmission du savoir et de l'acquisition-développement de l'esprit critique est une erreur. C'est nier le rôle économique de formation de la main-d'œuvre. Les savoirs dispensés seront différents d'une filière à l'autre selon la nécessité économique de leur futur emploi. Avec l'essor du travail ouvrier, industriel, au cours du XIXe siècle, la bourgeoisie a eu besoin d'apprendre aux prolétaires à lire, à écrire et à compter. Depuis, la situation économique de la France a évolué. Le développement du secteur tertiaire et du travail avec des machines de plus en plus complexes les a obligés à élever le niveau minimum de l'enseignement, ce qui explique la forte progression des filières générales dans les pays dits « développés ». C'est une des raisons qui explique au Pakistan ou en Indonésie par exemple le taux élevé d'analphabétisme, vu que le travail est essentiellement concentré sur des métiers peu qualifiés, textile, agriculture. Il n'y a donc pas nécessité pour la bourgeoisie d'augmenter le niveau de qualification de ses futurs ouvriers, que sont les écoliers issus du prolétariat. Quelle que soit la filière suivie, la première leçon de l'école est la discipline. Dès la maternelle, l'obéissance et le respect de la hiérarchie sont au cœur de l'enseignement. On lève la main avant de parler, on ne coupe pas la parole au prof, qui lui ne se gêne pas. On se met en rang. Pourquoi cet apprentissage ? L'argument souvent avancé est que la discipline est essentielle pour bien apprendre. Elle est surtout nécessaire pour le fonctionnement d'une société capitaliste. La soumission au patron est la suite logique de cette soumission au prof. Ceci est un extrait de La lutte des classes. C'est beau comme une école qui brûle, issu du site tankil.net. Précisons aussi que l'école est un véhicule parmi d'autres de la reproduction des oppressions systémiques, racisme, validisme, hétérosis, patriarcat, et qu'elle contribue à les légitimer et à nous les inculquer.
Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance des choses qui rendent fou, inutiles, style, fille dans le moule. Excuse, mais je m'en fous. À l'école, tais-toi, la grande est un guet-apens. Il faut des diplômes et de l'argent, sinon la galère t'attend. Y'a des horaires pour s'amuser, d'autres pour le sérieux. Tout est imposé, alors puis toi, tu choisis rien. Veut tout le monde ou pas. Tu te rends compte ou pas qu'on nous dresse d'une façon. Si tu refuses ces styles, oh, mais cela raconte quoi. Des petits, on nous met des barrières mentales en place. Et la spontanéité juvénile et la pureté sans crasse. C'est formatage, emballage pour la vie d'adulte. Tes petits en cours, la réceptivité, tu sais que ça dure. L'éternel non-stop, 36 heures par semaine où tu la fermes et tu gobes jusqu'à la vie active. Bref, le même protocole qu'on baissant, décœuré par la réflexion, deviennent de bons moutons manipulables, passifs devant leur télévision, prêts à tout croire. Bon auditoire pour la propagation de leur grande foire politique, c'est le trou noir pour ma génération. La même histoire, vu que c'est le dollar que les gens vénèrent à fond. Enseignement obligatoire, formaté depuis qu'on est en France. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde, l'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Rentre dans la classe, prends place, le cul sur une chaise, pas bouger, telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves le doigt. Et si t'es pas d'accord, soit tu punis, soit tu prends sur toi. Mais si t'as plus droit, alors faut que tu apprennes leur leçon pour lâcher les tiennes, car c'est du par cœur. Robotisation, doucement, on fait en
filer tes chaînes, clic clic. Pour que tu sois un bon pion plus tard, on t'assujette, rentre dans la machine. Façon soit tu rentres, soit tu pars. Et si tu pars, la galère t'attrape. Et t'inquiète, ils sont malins, ils ont pensé à tous ces bâtards. Classement, rangement, partout. Dernier rang d'ailleurs, paraît qu'on y voit rien. Erreur, c'est dans le fond qu'on voit tout.
Il y a plein de choses qui sont mises en place à la fois sur les élèves, mais aussi sur les personnels. Mais sur les élèves, c'est vrai que ça date d'assez longtemps. Il y avait eu l'instauration d'un fichier qui était censé répertorier de manière absolument neutre l'origine des élèves, qu'elle soit ethnique, leur nom, et d'informatiser ce fichier-là. C'était base élèves. Nous étions mobilisés contre ça, puis finalement... On a réussi juste à obtenir le fait que les nationalités n'apparaissent pas. L'accélération, elle est permise parce qu'il y a des outils, justement, qui étaient déjà mis en place avant. Si on s'y soumettait complètement, en fin de compte, l'enfant serait une donnée comme une autre. Et c'est bien ça qu'on cherche à faire. Par exemple, la mise en place de logiciels d'appel pour les présences, pour les retards. Tu saisis l'absence des élèves, le retard des élèves au moment... t'es où tu t'en rends compte. Donc tout de suite l'information est donnée à la vie scolaire qui tout de suite va envoyer des SMS aux parents. Et en cas d'absentéisme, de retard, après pour les signalements aux autres institutions, parce que c'est ça aussi la mise en place des fichiers, la mise en place de ce qui aurait l'air d'être des choses pratiques finalement qui amélioreraient la vie des gens. Ce sont surtout des outils de contrôle hallucinants puisque finalement ça permet une traçabilité même du quotidien des gamins. Dans cette logique technologique, il y a aussi le LSU. C'est le livret de compétences qui est informatisé.
Tous ces outils de contrôle numérique en fait, se mettent en place dès l'inscription de l'enfant, hein, qui a un numéro de scolarité dès son inscription jusqu'à la fin de sa scolarité.
Ils ont trouvé un truc très subtil, c'est qu'en fait, sur nos logiciels, de toute façon, quand on rentre les évaluations, même si on ne remplit pas, nous, directement ce livret, ce qu'on remplit comme note et comme appréciation peut être traduit dans ce livret-là, puisque tout est saisi maintenant par informatique sur des logiciels. Ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de possibilité pour un enfant de ne pas être traçable. On l'a souvent comparé d'ailleurs au livret d'atelier des ouvriers du 19e en fait. C'est, partout où tu seras, on verra ce que tu vaux.
On le voit aussi avec l'instauration de l'école obligatoire à 3 ans en 2019 qui vient d'être renforcée par l'instruction obligatoire à l'école pour toutes et tous. Donc plus aucun élève ne passera à travers maille d'un système de contrôle et donc soumettre par le même biais les familles à la menace de sanctions en cas d'absentéisme.
Moi, c'est un dispositif de pouvoir qui va pouvoir à un moment donné quasiment se passer justement de ces outils-là. Parce que le dispositif, il vise carrément à produire des subjectivités qui ne seraient plus du tout menaçantes. Moi, quand j'ai commencé à être enseignante, les élèves, ils rentraient librement dans leur établissement scolaire. Ils en sortaient tout aussi librement. Aujourd'hui, il y a un carnet de liaison avec quand même une photo d'identité. Et quand on sort, si on n'a pas son carnet, on reste 2 heures en retenue parce qu'en fait, c'est l'autorisation de l'identité. Donc, c'est un contrôle d'identité quotidien, quelque part. Donc, finalement, la logique policière, elle est dans la continuité. Il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes qui débutent leur cours en demandant aux élèves de poser ce fameux carnet sur la table. C'est-à-dire qu'on prend comme a priori le fait que l'élève va dysfonctionner. J'utilise exprès les termes dans lesquels je ne me reconnais absolument pas, mais les termes qui sont ceux qui sont en usage, pour dire qu'en fait, la répression arrive avant même la relation d'apprentissage.
Finalement, prospère à l'école assez allègrement.
Quand on voit ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, que des gamins ont été mis à genoux pendant des heures et qu'il n'y a pas eu de réaction, enfin il y en a eu quand même un petit peu, mais très peu du monde enseignant par rapport au fait que ce sont leurs élèves qui ont été traités comme ça. Et aujourd'hui, finalement, il y a des choses qui se passent sans réaction et même si, avec des réactions d'adhésion, puisque là, on vient de le voir, s'il y a des gamins qui sont retrouvés en garde à vue, c'est parce qu'il y a des collègues qui les ont dénoncés. Et il y a des procédures de signalement, des procédures de signalement qui nous ont été proposées, justement, dès qu'on remarquerait des élèves qui ne correspondent pas à cette fameuse définition des valeurs républicaines. Après le premier confinement, il y a eu aussi, au niveau des logiques de délation, finalement, des fiches qui s'appelaient des fiches Covid. Et comment gérer, finalement, la complexité de toutes ces vilaines personnes qui remettent en cause l'unicité républicaine. Et une espèce de fatras idéologique où, soi-disant, il fallait qu'on soit sensible aux dérives sectaires qui pouvaient s'exprimer à travers les expressions des élèves. En fin de compte, c'était simplement est-ce qu'il y a des élèves qui contestent la mise en place du protocole et des règles pour gérer la gestion finalement de la crise sanitaire. Et en fin de compte, elles ont un double effet, ces fiches. C'est qu'elles rendent l'enseignante dans une position de délation, mais c'est aussi un rappel à l'ordre pour l'enseignante. Si toi tu bronches, toi aussi tu es sous contrôle. Toute l'histoire aussi des valeurs de la République et du contrôle que ça induit. Et c'est, en fait, c'est des technologies de la pensée, en fait. Il faut dire aux dominés de fermer leur gueule, et même, c'est même plus fermer leur gueule, c'est d'être des terrains vierges sur lesquels doit s'inscrire la parole de l'État. Et l'apogée, c'est quand même, on vient de la vivre, moi, je pense, avec l'assassinat de Samuel Paty, avec toutes les choses mises en place depuis des années. Et notamment autour, ça a commencé, cette histoire-là, justement, de reprise en main absolue et idéologique par rapport à la laïcité et tout, je pense que c'est la sortie de la charte de la laïcité en 2013, soi-disant pour le vivre ensemble, finalement, pour le respect entre nous, pour pouvoir être bien, alors qu'en fait, c'était une façon de redélimiter un « eux » et un « nous ». Et le « eux », c'est les vilains qui remettraient en cause... le fait qu'on est libre à l'école, et les vilains en question, c'est effectivement les gens racisés. Parce que ça va aussi, cette offensive idéologique, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça va complètement avec la mise en place d'une gestion managériale. En fait, il ne reste plus rien d'autre à l'État que d'être au service du capitalisme. Donc il faut inventer autre chose, des valeurs. Il faut mettre en avant des valeurs, tout simplement pour cacher que derrière, on détruit tout ce qui n'est pas le capitalisme. C'est ça le truc. Et le voile, la question du voile et ce qu'on en a fait, c'était hallucinant, parce qu'en plus, c'est quasiment illégal par rapport à l'idée de la laïcité au départ. La laïcité, c'est pour protéger les croyances et qu'elles puissent s'exprimer dans un cadre. Et du coup, aucun enfant ou aucune personne qui rentre dans un service public devait être soumis à la neutralité religieuse. C'est simplement les agents, et c'était logique. Les agents, c'était juste pour pas parce qu'ils sont dans un rapport de force. Si un enseignant arrive avec... en étant trop marqué, comme il a une position de fait, puisqu'on n'est pas encore dans des pédagogies alternatives où on pourrait penser les choses autrement, ça pourrait influencer. Mais en aucun cas, ce qui était prévu à la base, c'était d'empêcher la visibilité de ce que les enfants pouvaient penser. Et du coup, forcément, il y a une image de l'enfance aussi qui se produit dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant qui nous ressemble, c'est une page blanche, et on inscrit sur lui ce qu'il faut. Et il y a l'enfant rétif, l'enfant des classes populaires, l'enfant racisé, et puis alors l'enfant croyant, et l'enfant musulman qui sourit pas qui sourit pendant la minute de silence ou qui ose demander pourquoi on l'a fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des questions comme ça peut mener un enfant de 10 ans en garde à vue. Donc on est arrivé à un stade où c'est vrai que l'école-prison, c'est la prison moderne, c'est-à-dire que ce n'est pas la prison qui va faire forcément une contrainte qu'extérieure, c'est la prison à l'intérieur. C'est-à-dire c'est comment vous incorporez depuis le plus jeune âge des normes de sécurité et des normes de pensée, ou plutôt de non-pensée. Ça s'inscrit dans les corps des enfants.
Et quelque part, il y a une soumission à cette logique policière dont finalement les enseignants... deviennent un maillon actif.
Je rentre, si je puis dire, dans l'intimité de notre vie républicaine. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste, et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. L'école, c'est le creuset républicain. C'est pourquoi, j'en suis convaincu, la République résistera par l'école à ceux qui veulent la combattre ou la diviser.
Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Je demande à voir la liberté qui était marquée sur le portail de mon école. Liberté de chanter, mais attention, sortie de l'atelier. Liberté de voir les conneries, d'éviter d'en France voir. Liberté de penser la même chose que la majorité. Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à des conneries.
Les adultes, ils étaient déjà enfants, ils sont déjà allés dans des écoles et on les a expliqué ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà.
Je peux jouer avec vous ? Moi, je laisse régler votre chose en dehors. Et si vous n'êtes pas d'accord, elle va essayer de négocier. Je vous laisse.
Moi, mon école de rêve, ce serait si, en fait, dans un cours de récré, eh ben, il n'y aurait que des jeux. Il y aurait un grand toboggan où il